Nous sommes un peuple en chemin qui vit pour un lendemain. Nous ne prenons plus la haine, nous ne faisons plus de peine. Ce chemin est merveilleux car il conduit vers les cieux. Où est notre patrie? Où se trouve la vraie vie? Je suis déjà en chemin, lève-toi avant tout est bien, car notre Dieu est bon. Dans ce monde de merveilles, nous ne sommes plus pareils. Le chemin du paradis est pour vous aussi, c'est le chemin qui nous mène sur les hauteurs et transforme nos cœurs, nous apprend le bonheur de tout donner, de vouloir tout partager, dans la paix, dans la joie, par notre vie de foi. Jésus bénit l'œuvre de nos mains, car notre Dieu est bon. Dans ce monde de merveilles, nous ne sommes plus pareils. Le chemin du paradis est pour vous aussi.
Tous. Réjouis le week-end prochain, je crois qu'on sera tous enfin réunis, parce que voilà, ça... Mais on est quand même content d'être là, et on sait aussi que tous ceux qui ne sont pas là, ben, ils nous écoutent aussi sur Internet. On leur dit bonjour.
Bonjour.
Voilà, ça nous rappelle des bons souvenirs, tout ça, pour les vieux qui étaient là au départ, ça nous rappelle quelque chose. Bien, quand je parle des vieux qui étaient là au départ, c'est-à-dire au départ de la communauté en... Il y a plus de 25 ans, maintenant. Hein? On dit, ça fait combien de temps maintenant? C'était en 77, on a commencé. Le siècle dernier, voilà, le siècle dernier. Luc chapitre 15, versets 11 à 24, s'il vous plaît. Bon, ce message n'est pas forcément un message pour vous qui êtes ici, bien que ça peut vous faire du bien, mais c'est possible que ce soit pour vous, mais c'est certainement aussi pour quelqu'un qui est venu sur Internet et qui a besoin de cela. Donc, nous allons écouter cette parole que Dieu m'a inspirée hier après-midi et ce matin. Luc 15, 11 à 24. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici je meurs de faim ?» Je me lèverai et j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et du soulier au pied. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Chaque fois que je fais cette lecture, il me semble que j'entends la voix, je crois que c'était Joël qui lisait ça, sur un disque, un 33 tours. Un homme avait deux fils. Alors avec un gros accent suisse, c'était formidable d'entendre ça. On a toujours ça, hein, maintenant c'est un CD, je crois. Depuis longtemps, l'être humain se maintient au niveau de la cime, et il a oublié ses racines. Quand je dis de la cime, c'est-à-dire de sa tête d'en haut, il réfléchit, il pense, il raisonne, et il en arrive à être déraciné. Pourquoi ? Parce qu'il s'est mis à vivre dans un monde de concepts, à vivre dans un monde abstrait, dans un monde intellectuel. Il a des réponses toutes faites sur à peu près tout, mais son cœur est déraciné. Ça, c'est le grand problème d'aujourd'hui. Et il veut tout comprendre, et il peut tout comprendre. On a toute l'information à notre disposition, mais on la traite avec légèreté, n'est-ce pas ? On veut tout saisir, on veut pouvoir tout regarder. Et puis voilà, l'être humain pense aujourd'hui qu'il va ainsi maîtriser sa vie en emmagasinant de la connaissance et en la cime, dans la tête. Raphaël, je me rappelle, le gitan, il disait... Vous avez la Bible dans la tête, donnez-vous un bon coup sur la tête pour que ça descende 30 cm plus bas dans le cœur. Les racines. Mais l'homme ne se soucie pas de ce qui vit à l'intérieur de lui. Je me rappelle une blague qui disait, un homme avait deux fils, il rentra en lui-même et qu'est-ce qu'il trouva ? Des boyaux, un estomac, non. Qu'est-ce qui vit à l'intérieur de vous ? Il n'y a pas seulement ce que vous voyez. Qu'est-ce qui est dans votre profondeur ? Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous donne cette vie ? On utilise notre corps machinalement, inconsciemment. L'autre jour, je parlais avec mon ami Manu, on était sur Skype, on y est presque tous les jours. Et il me disait, voilà, maintenant je paye. Et je dis, à quoi donc ? Eh bien, toutes les bêtises que j'ai faites quand j'étais jeune, je ne me rendais pas compte, et c'est vrai, on ne se rend pas compte, on fait des tas de trucs. L'autre jour, je parlais avec une dame dans un restaurant qui me disait, je suis allé vivre à New York et j'ai pris 25 kilos en 6 mois parce qu'elle ne s'est pas rendue compte. Elle a mangé, bouffé, et puis les fêtes, les machins et tout ça. Et alors, quand elle est rentrée, elle a dû faire... On ne se rend pas compte, on agit, on vit avec notre corps machinalement et puis on n'entretient pas, on est inconscient, voilà. Eh oui. Et l'homme surtout ne sait pas comment tout ça, ça a été créé. C'est devenu un miracle habituel. Voilà, les naissances. Il y a un miracle dans la naissance. Il y a un miracle, oublier ces choses-là. Alors, on a mis ça de côté, la naissance, la mort, on ne veut pas trop savoir, ça fait un peu peur. On vit comme si ça n'existait pas, comme si on n'était jamais né, comme si on avait toujours vécu, comme si on vivra toujours, comme si on allait vivre toujours. Et puis, on ne connaît rien de nos pieds. On dit « bêtes comme nos pieds », mais on n'arrête pas de les insulter. Nos pieds ne sont pas si bêtes que ça, c'est vrai. Et puis, on ne connaît rien de nos jambes, on ne connaît rien des mystères, des choses qui se passent dans notre tête. On est tout surpris d'apprendre qu'il y a des cellules, l'air. On dit, ah bon, il y a tout ça, c'est formidable. Puis on passe à autre chose, passe-moi le sel, voilà. Bien sûr, on ne peut pas être des spécialistes de tout, mais quand même, réfléchir, prendre du temps pour réfléchir, pour contempler tout ça. C'est quand même mystérieux, c'est quand même extraordinaire. C'est un bonhomme, il est plein de vie. Hier soir, je regardais, c'était un imam qui était en train de parler dans une mosquée devant un tas de monde. Il était là, comme moi, avec son micro à la main. Et puis, il finit sa phrase, puis boum, il meurt. Il était vivant et boum, il meurt. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Si on mettait un homme vivant sur une balance et puis si on met le même homme mort sur une balance, c'est le même poids ? C'est quand même curieux. Qu'est-ce qui est sorti ? Qu'est-ce qui est parti ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ? On ne peut pas trop savoir, ça fait peur. Bon, ça viendra un jour, mais il ne faut pas trop y penser. Alors, on se contente de schémas, on se contente de schémas mentaux, de réponses toutes faites, et puis voilà, on passe vite là-dessus. C'est des schémas et des réponses qui endorment notre vie, qui font que, voilà, notre âme est éteinte. Notre être est éteint. Alors on perd connaissance. C'est un peu comme beaucoup de gens vivent comme s'ils étaient évanouis, comme s'il y avait, voilà, ils existent, mais ils ne vivent pas. Ils ont perdu le sens du pourquoi ils sont sur la terre. Pourquoi ils sont sur la terre ? Il y a une raison. Il y a peut-être une raison. Pourquoi ? Il ne sait même plus qui c'est qu'il a créé, il doute. Oui, créer, c'est fou. Voilà, c'est un peu embêtant, comme disait mon ami Bigard. Bouddha, il m'embête pas avec mes péchés, mais Jésus, on va choisir un Dieu qui nous embête pas trop. Donc on prend Bouddha, parce que Bouddha, il nous embête pas trop avec nos péchés, mais Jésus. Alors il est très prétentieux, en dehors de moi, il n'y a pas de salut. Non, je préfère pas. Puis alors, c'est exigeant, c'est tellement exigeant. Mais il est le créateur, il sait pourquoi, il sait comment ça marche, il sait comment ça fonctionne. Et il sait pourquoi on en est là aujourd'hui. Enfin, nous ici, ça ne rend pas trop mal en France. Hein? Attendez, c'est pas fini l'histoire. C'est en train de tourner là, gravement. Et pourquoi nous avons été créés? On ne sait pas pourquoi. Pourquoi? On ne sait pas. Alors on a perdu le sens de notre existence. Perdu le sens. Alors on a des films excellents comme les Monty Python qui ont fait un film qui s'appelle Le sens de la vie. On est plié de rire quand on regarde ça. Mais voilà, c'est des trucs pour rigoler. Il y a les choses sérieuses. Les vieux vont à l'église. Voilà, c'est fini, c'est terminé. On veut plus savoir, on veut plus se poser les vraies questions. Voilà pourquoi on ne peut plus s'approcher des mystères, véritablement des mystères de l'univers. Évidemment, on sonde beaucoup de choses dans la matière, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, mais c'est toujours dans la matière. Mais la vie, dans l'infiniment petit, la vie, dans l'infiniment grand. Je lisais hier que le soleil, c'est comme un cœur qui bat, et il bat très régulièrement. Tous les 11 ans, il y a une pulsion. Et oui, et savez-vous, et tous les 11 ans, cette pulsion, ça fait des choses, ça déclenche toutes sortes de trucs, d'électromagnétisme, tout ça dérègle beaucoup de choses. Et il y a des conséquences sur la Terre, et je disais ça, voilà. Mais qui s'en inquiète? Oui, quelques farfelus, hein, quelques personnes un peu bizarres. On ne peut même pas se mettre à croire des trucs pareils, mais l'univers, c'est un être vivant. C'est Enoch qui nous dit ça. Mais Enoch, un vieux crétin qui a écrit un bouquin il y a 5300 ans, mais Michel de Bécan, mais qu'est-ce qu'on a à faire de ce type-là? Quelle conversation on aurait pu avoir avec Enoch, hein? Il n'avait même pas un téléphone portable. Est-ce qu'il avait Internet? Non. Lisez son livre il y a 5300 ans, vous allez voir, ils connaissent beaucoup plus de choses que nous. Il n'y a pas longtemps, ils ont découvert, des chimistes ont découvert que une femme qui s'appelle Hildegard avait trouvé, elle avait répertorié toutes sortes de plantes pour pouvoir soigner les gens. Par son intuition, c'est une femme de prière, c'est une religieuse. Elle avait trouvé toutes sortes de plantes pour soigner, et puis c'était efficace. Et là, dernièrement, ils ont fait une comparaison avec leurs recherches, ils se sont aperçus que, ils emploient les mêmes plantes pour soigner les gens. Bon, maintenant, on sépare la cellule, n'est-ce pas? On va pas vous faire manger une tonne de foin, on va prendre juste la cellule qu'il faut dans le foin pour vous donner. Mais c'est la même chose. Cette femme-là, par son intuition, par sa réflexion, par son observation, par le temps qu'elle y mettait, on vit comme des fous, on vit comme des enragés. Et puis, c'est quand même un peu dommage. Et le texte de ce matin nous dit que cet homme, il est rentré en lui-même. Il en est arrivé à un point où il s'est dit, bon, voilà. Il était assis, et puis il voyait que même les cochons, ils mangeaient mieux que lui. Alors il a commencé à réfléchir. Il est rentré en lui-même. Entrer en soi-même, c'est aller à la rencontre de l'intelligence créatrice de Dieu. Entrer en soi-même, c'est aller à la rencontre du pouvoir sacré. C'est aller à la rencontre du pouvoir de la vie. Rentrer en soi-même, réfléchir. Rentrer en soi-même, c'est aller à la rencontre du discernement. Est-ce que vous avez déjà discerné ce qui, dans votre pensée, dans votre intelligence, dans votre mémoire, vient de vous et de ce qui vient de l'extérieur? Est-ce que vous avez discerné ça? Est-ce que vous avez analysé ça? Est-ce que vous avez pris le temps? C'est intéressant. C'est intéressant. Le souffle sacré de la vie qui est en vous, il s'en ira un jour. Ce sera trop tard pour réfléchir. Ce sera trop tard. Il s'en ira un jour. Où? Où ils sont partis tous ces gens? Dit, il nous a quittés. Mais pour aller où? On ne veut pas trop. Ceux qui donnent la réponse, non, on ne veut pas savoir, non. On ne veut pas savoir pourquoi, parce qu'il y a des exigences derrière. Mais c'est obligé qu'il y ait des exigences. Pour vivre sur cette terre, il y a des exigences, on ne peut pas vivre n'importe comment. Hein? Ben, c'est la même chose. C'est pour tout, c'est partout. Il y a toujours. On ne peut pas se comporter comme des éternels gamins tout le temps. Il y a des... Et puis, pourquoi ils sont partis, tous ces gens qui sont partis? Il y a des milliers de personnes qui partent comme ça. On retrouve leur corps, ils sont morts. Il y en a qui ont été assassinés. Il y en a qui ont été tués. Il y en a qui sont malades. Puis il y en a qui meurent, on ne sait pas pourquoi. Et même pour tout le monde meurt. Et pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas autrement? Moi, quand je regarde le moteur d'une voiture, je me dis toujours, pourquoi ils ont fait si compliqué? Il n'y avait pas possibilité de faire plus simple que ça. C'est compliqué pour moi, un moteur. Alors, quand ma femme m'explique, quand les chirurgiens ouvrent le ventre, comment c'est dedans, c'est encore plus compliqué que ça. Et puis, en plus, il y a de la vie, un moteur. Mais là, en nous, il y a une vie, il y a une possibilité de réflexion, une possibilité. C'est extraordinaire. Et qu'en sera-t-il de votre passage sur la Terre une fois que vous serez parti? Qu'est-ce qui restera? Des photos? Des vidéos? Un témoignage dans un livre? Un blog sur Internet? Votre page Facebook? Qu'est-ce qui restera de votre vie? Qu'est-ce que vous allez dire à ces questions-là? Des réponses toutes faites? Des schémas comme ça, mentaux, des trucs que vous allez balancer. Mon frère, ma sœur, mes amis, votre corps a été construit sur le modèle d'un monde supérieur. Je ne vous parle pas de religion là ce matin. Je sais que c'est un culte, mais je ne parle pas de religion. Je vous parle d'entrer, non pas en religion, mais d'entrer en vous-même. D'entrer en vous-même, parce que je n'ai pas peur. Si vous rentrez en vous-même, vous allez trouver la vie, parce qu'elle est en vous-même. Et Jésus a dit, je suis la vie. En vous-même est écrit le message originel qui te dit, si tu le lis, hein, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. C'est pas seulement dans la Bible, c'est universel. C'est universel. Et comme les gens ne rentrent pas en eux-mêmes, alors Dieu a dit, bon, je vais vous donner un bouquin. Mais on a ça en nous-mêmes. Mais combien? C'est parce qu'on ne veut pas rentrer en soi-même que Dieu nous a donné un bouquin. Alors de temps en temps, on rencontre ce bouquin. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, ce bouquin, ah, ce bouquin. Entre en toi-même et apprends à lire ce livre qui est écrit en toi. Tu es ici-bas, mais comme beaucoup de monde, tu es perdu, même en tant que chrétien. Même en tant que chrétien, on dit, voilà un chrétien, je suis sauvé, oui, parce que tu n'iras pas en enfer, parce que voilà. Mais sur la terre, est-ce que tu es vraiment, vraiment sauvé? Ou est-ce que tu es un petit peu perdu? Tu ne sais pas trop où tu en es. Tu ne sais pas trop où... qu'est-ce que c'est ton histoire, c'est quoi? Alors, beaucoup de gens, pour se rassurer, même les chrétiens, hein, surtout les chrétiens, eh ben, ils se trimballent des traditions. Ils se trimballent des traditions. Et puis, ça leur donne des points de repère. Voilà, des points de repère. Formidable. Mais c'est des illusions seulement. Les traditions, c'est des lumières trompeuses. C'est pas juste, c'est pas bien. C'est comme les phrases toutes faites. Le jeune homme de notre texte, lui, il a eu ce courage d'entrer en lui-même. Une fois qu'il est rentré en lui-même et qu'il a vu la situation, il a dit, c'est pas logique. Alors je me lèverai et puis j'irai chez mon père, c'est-à-dire je retourne dans ma famille, je retourne là où sont mes racines. Il en est arrivé à cette décision parce qu'il s'est rendu compte de son erreur. Beaucoup de gens ne veulent pas se rendre compte de leur erreur. Dans la Bible, c'est pas écrit, il se rendit compte de son erreur, il a dit, il s'est rendu compte qu'il avait péché contre le Père, péché contre son origine, il n'était pas ce qu'il devait être d'après son origine. Sa famille, c'était une famille riche, aisée, bien, des bosseurs, des gens qui et puis voilà, qui se trouvaient au service d'un bonhomme qui lui donnait même pas aussi bien à manger que les cochons qu'il devait garder. Mais c'est pas ça, je suis pas ça. Il s'est rendu compte de son erreur, le mot péché, ça veut dire erreur. Et très souvent, on revient à Dieu parce que, ou on va à Dieu à cause de nos erreurs, parce qu'on se rend compte, je sais pas, c'est pas vrai, je suis pas ça quand même. Une pub qui dit, parce que je le mérite bien. Mais oui, vous méritez mieux que les carouges, que les machins qu'on donne aux cochons. Vous êtes d'origine divine, il faudrait vous en souvenir. Alors il est entré en lui-même, quand il a vu son indigence, il a vu que ses pieds prenaient racine là où il ne fallait pas. C'était pas bon pour lui là où il était. Il s'en est rendu compte, alors il a dit, je me lèverai, il fallait d'abord se lever, pour ensuite marcher, pour aller. Il s'est fixé un but. Alors ne t'enracine pas comme tout le monde. Ne sois pas fataliste, lève-toi et retourne vers ton père. C'est-à-dire va vers ton créateur, vers celui qui t'a créé. Pas à la tradition, pas à la religion, pas aux habitudes, non, va plus loin que ça, va là d'où tu viens réellement. Je ne sais pas exactement d'où je viens. La Bible te dit d'où tu viens. Tu ne veux pas y croire. Bon, ben reste là où tu es, puis regarde les cochons manger mieux que toi. Après être entré en lui-même, après avoir vu clair, il dit, bon, je me lèverai. C'est là la première chose à faire, une fois qu'on est rentré en soi-même. C'est se lever, prendre une position déterminée. Quand on est assis encore, ben on n'a pas beaucoup de chance de se déplacer. Mais quand on est debout, ça nous donne déjà une chance. Avant d'aller quelque part, levez-vous. T'es pas un arbre. T'es pas un arbre enraciné qui peut pas se bouger tout seul. Toi, tu peux changer de place. Tu peux changer tes pieds. Là où sont tes pieds, là où tu es enraciné, tu peux changer de place et aller là où il faut, là où tu dois. Là où tu es heureux, là où tu rends ton père heureux, là où tu rends ta famille heureux. Parce que c'était pas seulement sa souffrance, là, ce pauvre homme qui mangeait même pas les carrés rouges, mais son père, il pensait, il était malheureux. Vous n'êtes pas tout seul à être malheureux dans votre situation. Il y a toute la famille spirituelle derrière, celle que vous ignorez, celle à laquelle vous ne voulez plus penser, parce que maintenant vous avez fait votre tradition, votre vie, vous avez tracé vos plans, vos machins, puis vous vous occupez pas de votre famille spirituelle, de votre père qui est dans les cieux, tout ça, vous vous occupez plus. Mais lui, il a aussi du chagrin. Vous n'allez pas vous convertir parce qu'il a du chagrin au premier abord. Vous allez vous convertir parce que vous allez rentrer en vous-même et vous rendre compte que ce n'est pas votre place. Ce n'est pas bon, là. Il y a autre chose, il y a mieux. Et si tu es comme ce jeune homme, là où il ne faut pas, alors lève-toi, arrache tes pieds, là où ils se sont enracinés, dans ces espèces de traditions que tu t'es créées ou qu'on a créées à ta place, dans ce train-train, dans ces habitudes, et va plonger tes racines là où se trouve la vraie vie. Tu me diras, mais ça me concerne pas, je suis chrétien. Si, ça te concerne. Parce que les chrétiens, très souvent, au début, c'est tout feu, tout flamme, c'est merveilleux, c'est alléluia, c'est tout ça. Et puis après, on se crée des habitudes et on s'enracine dans des machins qui ne valent pas de balles. Vous valez plus que ça et vous pouvez faire plus que ça. Mieux que ça. Dieu ne te déracinera pas. Personne ne va t'aider à te déraciner. Personne ne va le faire à ta place. Il n'y a que toi qui puisse le faire. Que toi, uniquement. Et la Bible dit, en étant entré en lui-même, il dit, chez mon Père, il y a de l'abondance. Rappelez-vous, le vieux patriarche, il ne croyait pas que Joseph, son fils, était encore vivant. Mais quand il a vu l'abondance, la Bible nous dit, son esprit reprit vie en lui. Ah, l'abondance. Eh bien, réfléchissez, est-ce que vraiment c'est ce que le Père a en réserve pour moi? Ou est-ce que vous êtes comme ce jeune homme qui s'est dit, chez mon Père, il y a l'abondance. Vers mon Créateur, il y a l'abondance. Et puis je suis là, je n'ai même pas les carrouges à manger. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ici, moi, je me lèverai et je vais aller vers mon Père. Le message, il est inscrit en toi. Il est en toi. Lis-le en toi-même. C'est même pas, il n'y a même pas besoin de lire la Bible pour comprendre ces choses-là. C'est en toi, tu le sais. Tu le sais. Il n'y a pas besoin qu'un prophète te le dise. Tu le sais. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Alors le diable vient pour tuer, égorger. Mais lui, Jésus, si on le suit, il, avec lui se trouve cette abondance. Ce qu'il a dit, est-ce que ça trouve un écho en toi? C'est important. Ça doit trouver un écho en toi. Il y a quelque chose en toi qui bouge quand tu entends ces choses-là. Alors, lève-toi et va vers ton père. Si tu es dans la position de ce pauvre garçon qui n'était même pas capable de manger les carrouges qu'on donnait aux cochons. C'est-à-dire, c'était même pas qu'il n'avait pas ce que son employeur avait, mais il n'avait même pas ce que son employeur... ce que les cochons, c'est-à-dire même, c'est affreux. C'est un pas de foi qu'il faut faire. Parce que, qu'est-ce qui t'assure que tu vas être bien reçu chez ton père? Qu'est-ce qui t'assure que ça va marcher? Qu'est-ce qui t'assure? Il n'y a rien qui peut t'assurer que ton père, ton créateur, va être content que tu te lèves et puis que tu ailles vers lui. C'est peut-être pas le moment. Il y a peut-être un autre moment plus favorable. C'est peut-être pas le moment, hein? Il ne sera peut-être pas content de te voir en sa présence. Bon, c'est vrai que Jésus a dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Mais en fait, bon, qu'est-ce qui m'assure que ce sont vraiment les paroles de Jésus, le Créateur, qui sont inscrites là? Hein? Si c'était que de l'encre sur du papier, cette histoire-là, est-ce que c'est vraiment vrai? Et puis chez nous, on a un proverbe en France qui est quand même pas complètement idiot. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça veut dire que ce que j'ai aujourd'hui, c'est peut-être pas satisfaisant, mais finalement, au moins, c'est à moi. Hein? Ce que je suis, c'est peut-être pas folichon, c'est peut-être pas extraordinaire, mais au moins, c'est ce que je suis moi. Maintenant, si je change de racine, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ça va être facile? Par contre, hein? Si je me lève, ça va être facile? Par contre, hein, si je me déracine pour aller vers Dieu, qu'est-ce qui m'assure? Et puis, il y a du chemin pour arriver jusqu'à Dieu. Comment je vais faire de là jusque vers Dieu? Alors, c'est ça le point d'équilibre. C'est ça le point d'équilibre qui fait toute la différence entre l'existence au service d'un maître ou la vie auprès de ton père. Ce point d'équilibre, c'est ce qui s'appelle la foi. Je vous ai dit ce qui s'appelle le péché, c'est l'erreur. Et ce qui s'appelle la foi, c'est ce point d'équilibre. Ce truc-là qui est le premier pas qu'on fait et qui va te mener au Graal. Vous vous rappelez le film? Vous vous rappelez, vous l'avez tous vu le film, hein? Où il est au bord d'un précipice et puis il voit le Graal de l'autre côté. Il n'y a rien pour traverser. Et finalement, il s'aperçoit qu'il y a... C'est un jeu d'optique. Suivant comme on regarde... On voit qu'il y a un pont. Vous vous rappelez de ce film? C'est avec Indiana Jones, je crois. Hein? Et alors, il met le pied dans le vide. Mais ce n'est pas le vide. C'est juste, n'est-ce pas, une vue. Eh bien, votre vue, ce n'est pas votre vue des yeux, c'est la vue de la foi. Est-ce que vraiment vous allez faire ce pas dans le vide? Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Ce jeune homme, il était assis dans les ténèbres. Et puis, dans les ténèbres, il a réfléchi, il est rentré en lui-même, il a montré son désir de vérité. Et il s'est levé. Et il a fait ce premier pas dans le vide. Parce que entre le point qu'il avait et le point qu'il allait avoir, c'était le vide. S'il avait déjà rien à manger là avec les cochons, qu'est-ce qu'il allait avoir à manger entre le moment où il quittait les cochons et le moment où il allait trouver son père? Le chemin a-t-il été facile? La Bible ne le dit pas, mais selon l'expérience universelle, je peux vous dire que certainement le chemin n'a pas été facile. Ça n'est jamais facile. Jamais. Alors, Jésus assure, celui qui marchera et qui persévérera jusqu'au bout, celui-ci sera sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on rentre en soi-même, qu'on prend la décision de se lever et qu'on commence à faire le premier pas, le deuxième pas, après on peut se dire, ouh, ça commence à mal aller, ben c'est peut-être pas le bon moment que je choisisse, donc je reviens en arrière. Non. Entre en toi-même, c'est une chose. Lève-toi, c'est une deuxième chose. Commence à marcher. Et même si ça va tout de travers, fous-toi de ça. Tu as un but qui est louable, qui est honorable, qui est bon. C'est d'aller vers ton père, c'est d'obéir à ton père, c'est de faire le plaisir de ton père. Amen. Et quand tu le fais, c'est pas seulement ton père, mais c'est tous les anges qui se réjouissent. Marcher, persévérer dans la marche, triompher de la tentation par amour pour la lumière, triompher de la tentation de retourner en arrière pour dire, ah non, brûler les ponts derrière. Marcher jusqu'à voir le Père qui court à ta rencontre. Parce qu'à un moment donné, on parle toujours que le Père l'a vu venir de loin, mais moi je dis le Fils, il l'a aussi vu venir de loin, son Père. Il avait dit dans sa tête et dans son cœur, voici je dirai à mon Père, je ne suis pas digne d'être, il a peu le temps de le dire. Son père lui a sauté au cou, l'a embrassé, il était heureux. Et puis une fois qu'il a pu se dégager de cette étreinte, là il a dit, mon père j'ai péché contre lui, apportez la robe, tuez le veau gras, elle a l'air... Est-ce que son père a dit, bon eh bien tu feras pénitence encore? Non. Quand il y a le point de jonction, quand il y a la rencontre, là c'est bon. Avant même que le jeune homme ait eu le temps de se repentir, avant même qu'il ait eu le temps de demander pardon, c'était fait. Est-ce que tu peux croire ça? Est-ce que tu peux croire ça? Il y a dans le Père une grandeur que le jeune homme ne soupçonnait pas. Dieu, ton Père, veut te donner ce qui t'appartient pour que tu fasses fructifier ce qui t'appartient. Tu me diras, mais j'ai vilipendé tout ce qui m'appartenait, ma part de l'héritage, je l'ai vilipendé. Il n'y a plus rien à moi chez mon Père. Je peux juste être un serviteur. Ça regarde le Père, il fait comme il veut, il ne te traitera pas en serviteur, mais en fils, même si ça ne plaît pas aux autres. il te traitera en fils. Alors sois sans peur, sois sans ombre, enracine-toi sur le terrain de Dieu, enracine-toi dans le terrain vrai et non pas dans la tradition humaine, dans ce que tu as fait comme tradition ou ce que tu as créé comme habitude. Ne t'enracine pas là-dedans, enracine-toi dans le terrain divin et non dans ces habitudes terriennes que tu as créées qui sont vaines, profanes, et entre enfin dans la lumière. Sois royal au service de Dieu. Deviens son corps ici-bas. Mets-toi à son service et la royauté sera sur toi. Ta vie ne sera plus la nourriture des démons. Ta vie ne sera plus la risée de l'usurpateur. Je ne vais pas le dire ça. Hein? Ta vie ne sera plus la risée de l'usurpateur. Entre en toi-même et ordonne. Que tout orgueil, illusion s'enfuit loin de moi. Au nom de Jésus, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Ordonne. Ordonne. Dis-le à toi-même et fais-le. Entre en toi-même. Où en es-tu? C'est un regard sans complaisance que tu dois avoir sur toi-même. Sans excuse, sans oui, mais s'il n'y avait pas eu ci, puis s'il n'y avait pas, si on m'avait pas. Un jour, Dieu a parlé à son serviteur Moïse. Israël était harcelé par des peuples étrangers parce qu'Israël avait péché. Et Dieu leur rappela que c'était à cause de leur péché qu'ils avaient été conduits dans cette situation. Moïse leur a dit. Mais Dieu n'a pas dit que cela à Moïse. Il lui a montré, si tu places ta confiance en moi, cette guerre s'arrêtera. Si tu ne places pas ta confiance en moi, cette guerre continuera. Et c'était le travail de Moïse. C'est ton travail à toi, de ta vie à toi. Alors, en pleine bataille, Moïse s'est mis à entasser des boucliers. Il est monté dessus, il dominait la mêlée et il a étendu ses mains. Toi aussi, toutes tes défenses, tous tes machins là, empile tout ça, monte dessus et puis regarde ça d'en haut et puis étends tes mains vers l'Éternel. Et quand il a fait ça, Israël a repris le dessus. Et quand il a baissé ses mains, Israël succombait à nouveau. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce geste? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce geste? Il a fait ce geste parce que quelque chose en lui, il a compris qu'il ne se sortirait pas de là s'il n'espérait pas en Dieu. Bien sûr, on pouvait espérer dans la force d'Israël, c'était quand même pas des fillettes de 12 ans, mais il fallait espérer en Dieu. Bien sûr que si tu espères en Dieu, ça ne veut pas dire qu'il va tout faire à ta place. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il ne va pas te déraciner, il ne va pas te conduire, il ne va pas te faire marcher, il ne va pas prendre tes jambes et les poser. Non, c'est à toi de le faire. Israël continuait à se battre. Mais c'était Moïse qui levait ses bras. Alors en toi, il y a ton corps qui fait des tas de choses, mais il y a ton esprit. C'est ton esprit qui doit être en communion avec Dieu et alors ton corps va suivre et sera placé là où il faut, comme il faut. Entrer en soi-même, se lever, aller vers le Père, monter sur un tas de boucliers, étendre tes mains. Pour ce jeune homme, comme pour Moïse, il doit y avoir plusieurs actes de foi. Ce n'est pas une chose. C'est la démonstration de ta foi, c'est au pluriel toujours. Ta foi, elle ne peut pas rester seulement dans ton âme, dans la cime, c'est-à-dire dans ta tête, dans quelque chose un peu virtuel, dans ta pensée. Oui, je crois. Non. C'est pas vrai. Il faut que ça soit aussi dans tes pieds. Il faut qu'il marche tes pieds. Il faut que ça soit dans tes jambes. Il faut que tes jambes bougent pour que tes pieds puissent avancer. Il faut que ça soit toute ta vie qui s'implique là-dedans. Ta foi, elle se démontre par des actes au pluriel. Au pluriel. Entre en soi-même pour y lire la vérité qui est la même que celle qui est dans la Bible. Je te promets, si tu entres en toi et que tu lis dans le livre que Dieu a écrit dans ton cœur, tu trouveras les mêmes choses que ce qui est écrit dans la Bible. Tu te lèves, tu te mets en marche vers ton but précis, tu entasses des boucliers, tu montes dessus, tu étends tes mains, tu persévères à les étendre, tu persévères à marcher, tu persévères dans ce que tu as décidé de faire pour arriver du point A jusqu'au point Z, tu persévères. Plus qu'une vue de l'esprit, la foi, c'est une succession d'actes que tu poses. Tous ces actes posés, ça va démontrer ta volonté de réellement aller de là où tu es, là où tu dois être. Et cela, ça se passe dans le temps, avec des moments difficiles, mais avant même que tu n'arrives au point que tu t'es fixé, tu verras le Père qui court à ta rencontre. Pas tout de suite. Il va te laisser patauger un peu. Mais tu vas le voir arriver à ta rencontre. Et tu vas le voir te revêtir du vêtement de la famille. Tu vas le voir t'inviter à sa table, tuer le veau gras, se réjouir avec toi et mettre sa fortune à ta disposition. Ça, c'est garanti. Mais ça demande des actes de foi, pas simplement quelque chose dans la racine, dans la cime, je veux dire, c'est-à-dire dans la tête, la pensée. Oui, je crois. Ça ne marche pas comme ça. Ah, mais Michel, c'est pour toi qui crois au Seigneur Jésus. Oui, crois, mais la croyance, elle pousse à des actes. Premier acte, c'est d'entrer en toi-même, ensuite te lever, ensuite marcher, persévérer. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa bonne fortune soit à ta disposition. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus de nous aider chacun d'entre nous dans nos diverses positions là où nous sommes. Nous avons tous quelque chose à changer, quelque chose à améliorer. Eh bien, Seigneur Jésus, que cette parole nous aide, à que nous puissions trouver dans ces paroles quelques phrases, quelques mots, qui soient des mots comme des diamants qui brillent et qui attirent notre attention pour nous montrer que nous pouvons faire mieux, nous pouvons être mieux, nous pouvons glorifier davantage ton nom, nous pouvons réjouir davantage ton cœur et le cœur des anges, et nous pouvons aussi obtenir de toi beaucoup plus de prospérité ou quoi que ce soit, ou le pardon, ou toutes ces choses. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir parler de cela ce matin. Je te demande, mon Dieu, d'aider chacun ici et tous ceux qui sont sur Internet ou à la télévision. Aide chacun à bien saisir ce qu'il doit faire maintenant. D'entrer en lui-même, premièrement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.